RCF.
Le grand invité.
S'il était parfois vu comme conservateur, le pape Benoît XVI a aussi accompagné une partie d'église sur le continent numérique. Un pape de paradoxe, disait la Croix avant-hier. Alors que ses funérailles seront célébrées demain, retour sur l'héritage du pape allemand qui a marqué une génération. Bonjour, Père Pierre Amar.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. Bonjour.
Vous êtes curé de paroisse dans les Yvelines, vous êtes aussi l'un des fondateurs du site Padre Blog qui offre une parole de prêtre sur Internet, sur ce continent numérique, concept cher à Benoît XVI, nous y reviendrons. Mais d'abord, peut-être revenir sur cette génération Benoît XVI. On connaît la génération Jean-Paul II, c'est notamment celle qui a fait les Journées mondiales de la jeunesse à Paris. À quoi ressemble la génération Benoît XVI ?
Eh bien, cette génération, elle vient de perdre son père, hein, évidemment. Puis elle l'a perdu deux fois. Elle l'a perdu la première fois lorsqu'il a renoncé à son rôle de pape. Et puis elle l'a perdu une deuxième fois samedi dernier lorsqu'il est mort et qu'il est parti dans l'autre vie. Donc c'est un choc émotionnel. Et puis c'est une immense action de grâce qui monte vers le ciel parce que de par ce père, elle a reçu énormément de choses. Alors, eh bien, en réfléchissant un petit peu à votre invitation hier et en me disant mais en quelques minutes, comment on peut résumer tout ça? Je crois que parler de la génération Benoît XVI, c'est parler tout simplement des trois rendez-vous qu'il a proposé à la jeunesse, par les JMJ, hein, les Journées mondiales de la jeunesse. Il y en a eu trois. Il y a eu Cologne en 2005, il y a eu Sydney en 2008, puis il y a eu Madrid en 2011. Et c'est assez étonnant de voir comment ces trois rendez-vous successifs, différents, significatifs, ont dévoilé chacun quelque chose de Benoît XVI. Est-ce qu'on a du temps, Pierre-Hugues, pour les détailler en quelques minutes?
Alors peut-être rapidement, parce que là vous parlez des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes dans les gens qui ont été marqués par Benoît XVI.
Bien sûr, je vois deux autres particularités. Je vois d'abord les prêtres qui ont été ordonnés pendant son pontificat, et puis les prêtres qui, durant, parce qu'il n'a pas été que pape, il a été aussi théologien, responsable à Rome de la doctrine de la foi, donc les prêtres et les séminaristes, donc qui pendant leur temps de formation, eh bien, se sont formés à ces livres. C'est un pape qui a écrit des dizaines de livres, plus de 50.
Et justement,
ils resteront dans les bibliothèques.
C'était un pape qui était parfois vu un peu comme un intello, aussi, permettez-moi l'expression, mais c'était un théologien. Il avait une plume assez compliquée. Il choisissait parfaitement ses mots. Est-ce que l'héritage de Benoît XVI, au-delà de cette figure dont vous parliez avec ses Journées mondiales de la jeunesse, ses rendez-vous, est-ce que cette figure de pape, elle va rester aussi avec son œuvre écrite?
Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur son côté inaccessible. Au contraire, il était brillant, ça c'est certain. Un évêque allemand disait que il avait la culture d'un agrégé et la piété d'un premier communiant. Donc l'image est très juste. Donc il était certes brillant, mais très accessible. Lorsqu'on lit, par exemple, sa trilogie très connue sur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, hein, trois livres, certes, ils sont denses, certes, il faut les lire avec un crayon à côté pour bien comprendre de quoi il s'agit, mais c'est pas inaccessible. Et je pense que c'est le propre des grands génies. Moi, j'ai connu une autre personne comme ça, c'est Philippe Lejeune, le professeur Lejeune. Ces gens étaient des géniaux, remarquablement intelligents, mais accessibles. Et c'est rare chez les gens intelligents.
Est-ce que vous pensez que la réputation qu'il avait de Panzer Cardinal, parce qu'il avait été préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, ça l'a peut-être aussi un peu mis dans une situation où il était vu comme quelqu'un d'assez rigide, et puis il passait aussi après le charismatique Jean-Paul II.
C'est vrai. Alors cette histoire de Panzer Cardinal, et là vous me donnez l'occasion de parler des JMJ de Cologne, c'était ses premières JMJ, ça pour le coup personne n'y a cru, dès 2005 lorsqu'il apparaît aux premières JMJ qui sont les siennes, hein, puisque Jean-Paul II aurait dû les présider. En fait, c'est Benoît XVI qui les préside. Il est à domicile, hein, il joue en Allemagne, on peut dire, hein, il est chez lui. La réputation de Panzer Cardinal, elle saute aux JMJ de 2005. Les jeunes n'y croient pas. Ils voient arriver un homme avec une voix douce, une profonde douceur, une profonde humilité. Et ils réalisent une chose, c'est que l'expression Panzer Cardinal, c'est une étiquette. Et comme toutes les étiquettes, elle est fausse.
Et effectivement, les Journées mondiales de la jeunesse, parlons-en. Il y avait eu Cologne en 2005, Sydney en 2008 et Madrid en 2011. Ceux qui y participaient se souviennent peut-être de cette grande assemblée. C'était sur un aéroport, je crois, où il y avait un million de personnes rassemblées. Et puis là, le silence total. C'était aussi le pape Benoît XVI, quelqu'un qui était liturgiquement aussi un modèle et qui savait justement amener à Dieu à travers cette liturgie, comme il l'a fait notamment cette fameuse soirée à Madrid en 2011.
Oui, alors moi j'étais dans les coulisses un petit peu de ces JMJ, hein, j'y étais moi-même présent, et je me souviens dans les mois qui ont préparé ce temps des JMJ de Madrid, il y avait eu cette insistance de Benoît XVI à vivre ce qu'on appelle le temps de l'adoration, l'adoration eucharistique. Et beaucoup de conseillers des JMJ, de prêtres et d'évêques, disaient gentiment au pape, vous savez, ça va pas marcher, parce que faire taire 2 millions de jeunes qui ont hurlé, crié, chanté, tapé dans les mains pendant 10 jours, parce que les JMJ, c'est pas que sur place, une fois avec le pape, il y a des jours avant, en diocèse, on est des centaines de milliers à célébrer ensemble, et puis évidemment, le point d'orgue, c'est le rendez-vous avec le pape. Et beaucoup de gens avaient essayé de dire gentiment au pape, mais ça va pas marcher, on va pas réussir à faire taire des jeunes comme ça pendant 10 minutes, c'est impossible. Et le pape, Benoît XVI, comme il a toujours été, doucement, disait, si, on va essayer, vous allez voir, ça va marcher. Et puis, ce soir, à Quattro Vientos, ça veut dire les 4 vents, il portait bien son nom, cet aéroport, il y a cette veillée de prière avec le pape. Et puis, grande tempête, à tel point qu'à un moment, nous, par les écrans, on s'aperçoit que la sécurité veut évacuer le pape, parce que le vent, il y a des structures qui tombent, les haut-parleurs, la sono s'arrête, et on n'entend plus le pape, on le voit assis sur son siège. Il nous regarde, on le regarde, et la foule applaudit pendant quelques instants. Ça a été un peu une ambiance un peu de fin du monde, j'avoue. Hein. J'ai même encore, en vous en parlant, ça me fait sourire. Et puis la sono revient, et là, le pape se retourne, se met à genoux, et l'ostensoir, donc le Christ présent dans l'Eucharistie, est exposé. Et le pape se rend présent à quelqu'un qui est plus grand que lui. C'est-à-dire que on comprend que, en fait, le job, pardonnez-moi, le boulot de ce pape, c'est quoi ? C'est pas de mener vers lui. C'est de mener vers le Christ. Et là, il y a eu quelque chose de très très fort qui marquera encore longtemps cette génération Benoît XVI dont vous voulez qu'on parle ce matin, qui est très fort. Et puis, un dernier mot, si vous voulez bien, toujours sur Madrid, à la fin de la messe qui clôture les JMJ, c'était le lendemain, le pape salue un petit peu les représentations, les gens qui ont participé, il remercie un peu tout le monde, et puis il dit trois lignes en français. Et il dit cette phrase que je trouve extraordinaire, aux Français, chers jeunes de langue française, le Christ vous envoie pour être, écoutez bien, des témoins courageux, sans complexe, authentiques et crédibles. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris cette phrase des témoins courageux et sans complexe pour moi, en me disant, mais nous les Français qui vivons dans un pays qui de plus en plus tourne le dos à ses racines chrétiennes, à son identité chrétienne, à sa foi, à sa culture chrétienne, ben nous qui sommes les derniers des Mohicans, les chrétiens qui sommes sur place, eh bien à nous d'être des témoins courageux et sans complexe, décomplexés. Et je trouve ça très juste.
Comment est-ce que cette génération Jean-Paul II a pris aussi ces mots ? Vous, on comprend, hein, vous avez voulu être décomplexé, et vous l'avez été notamment avec des initiatives comme Padre Blog, on y reviendra dans quelques instants, mais comment est-ce que cette génération Benoît XVI que vous décrivez a pris ces mots du pape émérite ?
C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur, alors pour le coup on reprend un mot de Jean-Paul II, elle n'a pas peur d'être catholique, d'en témoigner autour d'elle avec simplicité et sincérité. C'est-à-dire que nous faisons, moi-même je fais partie du cateau de la classe. Moi quand j'étais au lycée, j'étais le seul chrétien de ma classe, seul chrétien pratiquant. Les autres n'étaient pas hostiles, mais j'avais compris que j'étais le seul de mon espèce. Et on a développé, grâce à Jean-Paul II et Benoît XVI, ce sentiment de dire, ben voilà, je suis cateau, et alors, what else, j'ai envie de dire, what else, je suis chrétien, et alors. Et tu vas voir, cette fois, elle me donne une façon de vivre, une façon de voir les choses un petit peu différente. J'ai envie de dire, en fait, d'une certaine façon, Jean-Paul II nous a donné de ne pas avoir peur, et Benoît XVI, lui, nous a donné l'intelligence de la foi. D'enraciner ce sentiment de non-peur, ce sentiment de fierté, en travaillant, en allant dans les textes, en réfléchissant, et en nous faisant comprendre que, quand on est croyant, ben on flingue ni sa liberté, ni son intelligence.
RCF, nous sommes avec le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles et l'un des fondateurs du site Padre Blog. Père Amar, vous parliez à l'instant de cette minorité que formaient désormais les chrétiens et ce passage vers une minorité en Europe qu'a accompagné Benoît XVI. Benoît XVI a théorisé le concept de minorité créative. Est-ce que dans la génération Benoît XVI, ce concept de minorité créative, il s'est maintenant répandu ?
Oui, je pense profondément. Alors ce texte, enfin cette idée de minorité créative, minorité agissante, il en parle lorsqu'il va à Prague pour un voyage habituel, d'un voyage pontifical, d'une visite pontificale. Et puis, Dans l'avion, un journaliste lui fait cette question, lui fait cette remarque, disant, mais vous allez à Prague, vous savez, l'église en République tchèque, c'est pas très glorieux, hein. D'ailleurs, comme en Europe, d'une certaine façon, elle est plus très présente, les églises se vident, et le pape, toujours avec cette petite voix fluette, douce, lui dit, mais je crois pas que c'est la multitude, que c'est le nombre qui donne le pouvoir, qui donne la capacité d'agir. Au contraire, l'histoire a toujours montré que c'est les minorités agissantes, les minorités actives, qui donnent la possibilité de peser. Et ce terme de minorité agissante, cette expression de minorité agissante, il me semble qu'elle distingue bien l'Église en Europe. Alors pour nous en France encore plus, mais en Europe, parce qu'en France l'Église est une vieille dame fatiguée, hein, comme le disait le pape François récemment lorsqu'il est venu à Strasbourg.
Vous parlez du continent européen, il y a un autre continent dont parlait Benoît XVI, c'est le continent numérique. Alors il avait fait un peu le buzz, j'allais dire, hein, pour reprendre les mots qu'on utilise quand on parle parfois du numérique. Il avait envoyé une clé USB aux couleurs et aux armes du Vatican aux journalistes pour leur donner ce message à l'occasion de la journée mondiale des communications sociales. C'était pendant son Pontificat. Il avait dit aux jeunes chrétiens et aux chrétiens en général d'aller sur ce continent numérique, un appel que vous aviez entendu.
Oui, complètement, parce que derrière les écrans, il y a des hommes et des femmes, avec leur liberté, avec leur conscience, mais avec leur faim et leur soif de Dieu. Cette expression continent numérique, elle est très parlante. Encore une fois, voilà une expression ciselée du pape Benoît XVI qui dit des choses en quelques mots. Vous savez, le nouveau continent, ben on pense à 1492, hein, Christophe Colomb qui porte la croix en Amérique, qui plante la croix en disant, voilà, ben, sur cette nouvelle terre, j'y mets Jésus-Christ. Eh bien, Benoît XVI nous a fait comprendre que Internet n'était pas un média, c'était un lieu. D'ailleurs, on le dit tous les jours, je vais sur Internet, va voir sur Internet. Donc c'est bien la preuve que c'est pas juste un instrument, mais bien un endroit où on y va pour rencontrer des gens. Et donc, derrière ces écrans, il y a des hommes qui peuvent avoir faim et soif de Dieu. Moi-même, j'ai écrit une petite réflexion là-dessus en expliquant que Internet, c'était le nouveau presbytère pour nous les prêtres. C'est-à-dire que les gens ne vont plus sonner à la sonnerie du presbytère, à la porte. Ils vont sur Internet, en fait, ils cliquent. Et depuis leur fauteuil ou leur canapé, eh ben, ils posent des questions. Et s'il y a de l'autre côté un témoin, comme le disait Benoît XVI, décomplexé, authentique et sincère, ben, si de l'autre côté il y a un témoin qui répond aux questions, ben, cette personne qui a faim et soif de Dieu peut avoir des réponses.
Peut-être pour terminer, Père Amar, une question plus personnelle. Vous, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que le pape Benoît XVI a changé dans votre vie?
Alors moi, je suis prêtre, effectivement. Je l'ai connu un petit peu avant. J'ai même eu la chance de le rencontrer du temps où il était cardinal. J'ai toujours été impressionné par l'intelligence de la foi. C'est-à-dire que ce dialogue dont il avait fait un petit peu le refrain de sa vie de théologien, ce dialogue entre la foi et la raison, il nous a écarté ce qu'on appelle du fidéisme. C'est-à-dire que être chrétien, être disciple du Christ, c'est pas juste prier tous les jours, aller à la messe, fréquenter les sacrements, garder les mains jointes et les yeux fermés. C'est aussi se servir de cette intelligence que Dieu nous a donnée pour la mettre au service de la foi. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. La foi chrétienne, c'est d'abord une rencontre avec le Christ, c'est sûr, mais le Christ prend tout en nous, y compris notre intelligence, pour la faire travailler et pour grandir dans cette foi. C'est ça qui me restera. Et puis, il y a un deuxième point qui me touche aussi plus personnellement, c'est le pape de la réconciliation liturgique. Il ne s'est jamais résigné, jamais, à rassembler dans l'Église comme un père tous les enfants qui en font partie, y compris les enfants les plus turbulents, comme les enfants lefévristes ou ceux qui sont attachés à ce qu'on appelait la forme extraordinaire du rite romain.
Le pape
J'ai
de
senti
l'unité.
Qu'il y avait chez lui un vrai désir. Exactement, le
merci
pape
beaucoup,
de l'unité
merci beaucoup,
et de la paix.
Père Amar, d'avoir été l'invité ce matin de RCF.